l'entrepreneuriat, c'est pas que de la réussite. Au contraire, c'est beaucoup, beaucoup d'échecs et un peu de réussite. Pendant plusieurs années, tu te dis, il va falloir vraiment tout donner pour être encore là dans 6 mois, 1 an. Il a fallu en faire des erreurs et des échecs pour en arriver là, et on en fait encore, puisqu'en fait, on n'est jamais parfait et que justement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais j'ai ce caractère-là de, même quand j'échoue, je vais persévérer jusqu'à, je l'espère, réussir. J'ai toujours ce truc de, on va y arriver. Je sais pas comment, quand, on va bosser dessus justement, mais ça va le faire. Et c'est normal d'échouer. La croissance se fait petit à petit. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'on est à l'équilibre. On a un chiffre d'affaires à 7 chiffres et on est très fiers.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Jonathan.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Très très bien, et toi ?
Eh bien écoute, en pleine forme comme d'habitude, très content de faire cet épisode avec toi. On va revenir sur ton parcours, mais aussi on va, je pense, pouvoir en sortir pas mal de pépites, notamment à l'égard de la publication sur les réseaux sociaux, car tu es le fondateur de Swello, une plateforme de gestion des réseaux sociaux, planification, préparation, qui a été initiée en 2010. Je vais rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tu es autodidacte d'Internet depuis ton plus jeune âge. Swello compte aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs et a permis de programmer près de 7 millions de postes. C'est une équipe qui est en pleine croissance, actuellement composée de 13 personnes dans des bureaux à Toulon. En 2017, d'ailleurs, un grand tournant pour vous. Vous faites votre première levée de fonds à hauteur de 465 000 euros. On en parlera un petit peu plus en détail après, un changement de nom notamment. En 2019, vous remportez notamment un appel d'offres ministériel. Aujourd'hui, vous êtes utilisé par monsieur, madame, tout le monde, des entrepreneurs, mais aussi des grands groupes comme Sony, France Télévisions ou même le gouvernement français. L'outil est aujourd'hui déployé auprès de nombreux ministères et services gouvernementaux notamment. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, publication, outils, réseau et ton parcours. Mais avant ça, je veux revenir sur les débuts. En 2010, à seulement 15 ans, tu tenais un blog sur l'activité high-tech. Pour quelles raisons est-ce que tu as décidé de démarrer ce blog ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet spécifique à un âge si jeune finalement ?
Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle présentation. C'est très sympa. C'est une très bonne question. Donc, il faut se remémorer. Donc, en 2010, j'avais 14-15 ans. Et j'ai toujours voulu, depuis mes 13 ans, entreprendre, avoir un petit projet à moi, avoir un projet pour mon CV. Parce qu'avant Swello, il y a eu d'autres projets qui ont échoué, qui n'ont pas fonctionné. Je me rappelle notamment de TwitoChat. C'était un chat roulette Twitter où en fait tu rencontrais d'autres tweetos sans caméra. C'était vraiment juste pour parler. Et ça avait fini en top tweet un soir, et le lendemain, effet de souffler, tout le monde était parti et on a arrêté. Mais l'expérience était quand même cool. Ou encore, j'avais fait Kitsagogo, ça s'appelait. Kitsagogo, c'était des kits graphiques gratuits, des mini-sites que tu pouvais télécharger et installer sur un serveur. Et après, tu modifiais la page comme tu voulais. On avait fait quand même pas mal de téléchargements, je crois, 30 000 téléchargements de kits graphiques. Mais il y a eu un virus qui a été ajouté par un hacker. Et du coup, on a arrêté aussi ce projet-là. Mais tu vois, ça, c'était à 13 ans, entre 13 ans, 14 ans. Et pour te répondre, je pense que ça vient un petit peu de mon environnement. Et de mon souhait aussi, de, comme je le disais, d'avoir un projet. Mais c'est vrai que j'ai une famille qui entreprend, alors pas forcément dans le web. J'ai mon père qui est ingénieur, ma mère qui est prof d'SVT, j'ai mes frères et sœurs, un qui est dans la communication, ma sœur qui est dans la cuisine, qui fait des gâteaux, donc qui entreprend dans ça. Et mon autre frère qui, lui, pour le coup, est dans le web, qui est directeur artistique et qui a monté plusieurs boîtes. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et je sais pas, je pense que grâce à toute cette inspiration-là, j'ai toujours voulu avoir un projet. Et comme les projets, entre guillemets, spécifiques, donc vraiment avec un seul but, comme Swello, du coup, et c'est arrivé après, ne fonctionnaient pas, puisque Kitsagogo, TwitoChat, ça ne marchait pas, j'ai dû me dire à l'époque, j'essaie de me remémorer, hein, j'ai dû me dire, bon, et pourquoi pas un blog high-tech où je parle de la sortie des derniers iPhones, etc. Et en fait, grâce à ce blog, c'est là où est arrivée l'idée de Swello, qui à l'époque s'appelait ClockTweets. Clock pour programmer et tweets des tweets.
Justement, on va en reparler de cette histoire de Twitter qui a été finalement à l'initiative de la création de Swello. Mais avant ça, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer, c'est hyper intéressant, c'est que tu as lancé différents projets avant ClockTweet, donc Swello actuellement, qui n'ont pas été forcément concluants. Qu'est-ce qui fait que tu as persévéré dans l'idée, dans la volonté d'entreprendre face à différents échecs, en plus des échecs consécutifs, alors que beaucoup, malheureusement, pensent que bah, l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille, et dès lors que tu fais ton premier échec, tu fais face à ton premier échec, se vient la question, est-ce que je continue, est-ce que je réitère, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, etc. Dans ton cas, tu t'es dit, peu importe, j'avance, ou est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu t'es posé des questions et qu'est-ce qui fait que tu as continué ?
Ouais, c'est une très bonne question et je pense que non, l'entrepreneuriat, c'est pas que de la réussite, au contraire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs et un peu de réussite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr que quand on communique, on va avoir tendance, et encore, je trouve que c'est en train de changer, notamment avec LinkedIn, etc., mais, et les podcasts et tous ces formats-là où on dit la vérité, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup tout ce qui est réussite, mais il a fallu en faire des erreurs et des échecs pour en arriver là, et on en fait encore, puisqu'en fait, on n'est jamais parfait et que justement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais est-ce que c'est pas ça qui est intéressant. Mmh. Mais donc, pour te répondre, je pense qu'il y a deux éléments. Dans mon cas, à l'époque, hein, attention, je parle vraiment uniquement de moi, c'est que, un, j'avais aucune pression. Donc, je pouvais faire 10, 20 projets qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. C'était pareil dans le sens où j'avais 15 ans, j'étais chez mes parents, j'avais pas de crédit, j'avais pas de maison. Enfin, tu vois, je veux dire, j'avais pas de charge dans l'idée. Donc, tu es plutôt détendu. Et du coup, tu peux tenter plein de choses. Ça veut pas dire que tu peux pas tenter plein de choses après. C'est juste que tu sais que tu vas prendre peut-être plus de risques. Parce que derrière, bah, si tu rentres pas d'argent, tu peux pas payer ton loyer. Enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est quand même pas du tout la même réflexion. Et le deuxième point, je pense que c'est mon caractère. C'est-à-dire que j'ai ce caractère-là. Alors, on pourra en parler si tu le souhaites un peu plus en détail, mais j'ai ce caractère-là de même quand j'échoue, je vais persévérer jusqu'à, je l'espère, parce que ça, c'est jamais sûr, réussir. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est un, est-ce qu'on a réussi ? Qu'est-ce que ça veut dire, la définition de réussir ? Je pense que chacun a sa définition. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance dans un petit malheur. Je dis un petit malheur parce que c'est un malheur sportif. Et je pense que mon caractère s'est forgé grâce à ça. C'est que depuis mes 10 ans, je tire à l'arc. Et vers mes 12, je crois de mes 12 à mes 14 ans, un truc du genre, j'étais assez bien placé. J'étais dans les 10 premiers Français, en minime à l'époque. Et je crois que c'était en cadet ou ce genre de choses en catégorie. Et en fait, j'ai grandi du jour au lendemain de 10 cm et du jour au lendemain, je suis passé de premier de la région PACA, de premier du département, 13e français à dernier dans toutes les compétitions. C'est encore le cas aujourd'hui. Bon, ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté, mais depuis, j'ai toujours été dernier. Mais quand tu es petit et que tu te prends autant de positifs parce que tu es premier à toutes les compétitions pendant 2 ans et tout de suite, tu as un mur et tu te prends autant de négatifs, j'ai l'impression avec le recul, hein, tu vois, c'est pas une certitude, mais j'ai l'impression que ça a forgé mon caractère pour les autres parties de ma vie. Et pour autant, j'adore encore le tir à l'arc. Mais je pense que ça a vraiment été un tournant sans que je le sache, parce que tu vois, quand t'as 14 ans, tu penses pas à ça. Hein, par rapport à mon caractère et par rapport à cette persévérance qui fait que bon bah ça a échoué, c'est pas grave, tu vois, bah on continue et puis on y arrivera. Moi, j'ai toujours ce truc de on va y arriver. Je ne sais pas comment, quand, on va bosser dessus justement, mais ça va le faire. Pas d'inquiétude, ça va le faire et c'est normal d'échouer. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très mis en avant aux États-Unis. L'échec est valorisé et de plus en plus en France parce que c'était beaucoup moins le cas avant, mais là, on ne peut pas le dire. C'est aujourd'hui, c'est aussi valorisé et donc ça, c'est chouette.
Complètement, complètement. Et c'est intéressant justement cette notion de se dire, ok, face à l'adversité, au challenge auquel tu as fait face lorsque tu étais plus jeune avec le tir à l'arc, ça t'a renforcé, ça t'a permis de faire face aujourd'hui aux différents challenges que tu peux avoir au quotidien dans l'entrepreneuriat. Revenons du coup sur la création et ce qu'a initié Suelo. À la base, c'est la limitation de Twitter à l'époque où aucun outil existait justement pour faire la programmation de tweets ou autre. Comment est-ce que finalement tu es passé de cette question sur Twitter à l'idée de développer la solution qui est Suelo aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui ? J'imagine que ça s'est fait de manière progressive parce que la question finalement sous-jacente, c'est que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont un projet tech qui veulent révolutionner quelque chose et créer un outil qui répond à des problématiques X, Y ou Z, que ce soit liées ou pas aux réseaux sociaux, tu as souvent tendance, si tu veux, à entendre les projets « ouais, mais ça doit être parfait, ouais, mais ça doit être complet, j'ai envie de faire ci et ça et ci et ça ». Et là, finalement, au départ, moi, j'ai le sentiment, lorsque justement tu inities la création de Swello, qui a changé de nom entre-temps hein, en plus, eh bien, on répond juste à une problématique précise. Puis ensuite, on vient déployer d'autres choses autour de cet outil pour pouvoir avoir un go-to-market ou un product market fit qui est plus global.
Complètement. Alors, encore une fois, dans mon histoire, le fait est que comme je n'avais pas cette pression, pour moi, Swello, au début, c'était un projet pour mon CV. Donc, du coup, je termine mon collège, on lance Swello juste avant quand j'arrive au lycée. Et puis, la personne qui m'avait aidé à l'époque, donc, qui s'appelle Lancelot Hardel, qui a commencé le projet avec moi, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, il me dit « Bon, voilà, moi, je vais passer à autre chose. » C'était très cool et tout. Et d'ailleurs, on est resté en contact et on se voit très souvent aujourd'hui. Voilà, je me retrouve seul entre guillemets sur le projet. Alors moi, il faut savoir que ma partie, c'est plutôt web design, intégration, communication, etc. Parce que j'ai voulu recopier mon grand frère qui est directeur artistique, c'est fort possible. Mais du coup, je garde le projet qui vivote pendant quelques années, qui est gratuit, qui s'appelle toujours ClockTweets, qui n'a pas d'évolution technique. Mais comme tu l'as dit, il fait une seule chose, très bien. Ils programment des tweets. La concurrence arrive aussi à ce moment-là. Hein, ça se crée en 2010. Nos plus gros concurrents sont créés en 2010. La seule différence, c'est que ils avaient l'âge que j'ai aujourd'hui. Et moi, j'avais 17 ans. Et du coup, t'es au lycée. Donc, tu ne vas pas développer le projet comme eux ont pu le faire. Et donc, voilà, il y a de la concurrence qui arrive. Les plateformes, elles ont permis de programmer des postes bien plus tard. Hein, ça ne fait que quelques années. Et donc, ça continue le projet continue à avancer. Puis arrive un moment où je fais mon lycée, j'ai mon bac, j'arrive en DUT MMI, métier du multimédia de l'Internet, que je fais par alternance chez tuto.com. C'est là où j'apprends un peu ce que c'est le monde de la startup. C'est là où j'apprends mon métier, donc web designer intégrateur. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est à la fois des rencontres et c'est à la fois un timing. C'est que j'arrive à la fin de mes études, je me dis qu'est-ce que je veux faire. Moi, je voulais être ingénieur, sûrement parce que mon père est ingénieur, et du coup faire un bac plus 5. Et puis au final, tu te rends compte que j'ai des membres dans ma famille qui n'ont pas fait beaucoup d'études et pour autant qui explosent, qui cartonnent. Est-ce que c'est nécessaire dans mon cas? J'ai le projet qui est là, 20 000 utilisateurs gratuits, toutes les mêmes marques de la TNT, toutes les marques de radio, toutes les chaînes de radio et toutes les chaînes de la TNT, des grands youtubeurs qui l'utilisent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire finalement? Et est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire? Parce que peut-être qu'au bout d'un moment, comme il y a quand même la concurrence qui est là, ça va s'essouffler. Et puis, je me souviens de ce moment où je suis chez moi, je parle à mes parents et je leur dis « Je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais terminer mon DUT, je vais l'avoir. Et après, je vais lancer Swello parce qu'au pire, je risque rien puisqu'encore une fois, je suis chez mes parents. En plus, j'ai Pôle emploi alors de 400 euros à l'époque, mais c'est déjà énorme pour m'épauler, pour lancer le projet. Et vraiment, hein, sans mentir, le moment où je le dis à mes parents, j'entends la petite cloche de mon ordi qui sonne, je reçois un mail. Et en fait, c'est le meilleur ami de mon grand frère qui m'écrit et qui m'a dit « Voilà, je t'ai toujours promis que j'allais t'aider deux semaines à développer Swello. » Là, je rentre de Berlin, j'ai fini mon stage de fin d'études de parce que lui est ingénieur de mon cycle, quoi, de mon bac plus 5, et je viens t'aider. Et en fait, Thibaut, du coup, c'est devenu mon associé et ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, moi, je le croisais chez moi parce que c'est vraiment le meilleur ami de mon grand frère, quoi, qui a 50 plus que moi. Il m'avait aidé deux fois, notamment la veille du bac de français parce que Swello était tombé, enfin, ça ne marchait plus et du coup, il m'avait aidé à le remonter. Et grâce à lui, il y a des chaînes de radio qui ont pu publier leur post, faire leur tweet au bon moment. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une histoire de timing, de rencontre, parce que s'il n'y avait pas eu ce mail, ça aurait tout changé. Et parce qu'on est complémentaires, c'est-à-dire que Thibaut est développeur, aujourd'hui il est CTO, c'est mon associé. Il va pas forcément, en termes de caractère, il va pas forcément aimer faire des conférences, etc., ce qui est totalement l'inverse chez moi. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc voilà, on est totalement complémentaires, autant au niveau des compétences que du caractère. Et voilà, l'aventure est belle et je suis chanceux parce qu'il m'a cru. C'est quand même fou, encore une fois aujourd'hui, de me dire ça, parce qu'il a cru un gars de 20 ans alors que lui, il avait une proposition au Vietnam pour gérer une équipe de développeurs et il a fait le choix de me faire confiance. Donc merci à lui encore une fois.
On va en reparler justement de cette phase en 2015 où il te fait confiance et cette belle association démarre. Mais avant ça, je rebondis sur un point quand même. Tu évoques le fait que finalement, quand tu prends la décision de développer Swello, tu as 20 000 utilisateurs en partant de zéro et en partant du principe en plus que c'est un side project à côté de tes études. La plupart des gens peut-être ici se posent la question s'ils s'en rendent compte. C'est énorme, 20 000 utilisateurs. Qui plus est, tu évoques le fait que ce n'est pas des utilisateurs non plus complètement lambda pour certains. Tu as des radios, tu as des gros youtubeurs. Donc, il y a des enjeux importants pour eux, pour chaque publication, que ce soit des enjeux business ou des enjeux de visibilité. Quelle a été la stratégie de pénétration de marché ou de lancement ou de démarrage au départ de Swello que tu déploies, que tu mets en place, alors que, encore une fois, tu es étudiant, tu démarres de zéro, tu n'as pas forcément de fonds, tu es seul à gérer ce projet. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont dans la même dynamique que toi. Alors, attention, petit disclaimer quand même, à ce moment-là, on est en 2014-2015, sauf erreur, le marché est différent, les réseaux sociaux sont différents, c'est une solution qui est innovante, qui répond à une problématique alors que quasiment personne n'était là pour répondre à cette problématique. Donc il y a un contexte à prendre en considération, mais ça peut être intéressant, tes éléments de réponse à ce sujet. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, je vais peut-être te décevoir, mais on a fait une erreur à ce moment-là. Okay. En fait, oui, on avait 20 000 utilisateurs, mais on avait zéro adresse email. Donc, quand derrière, il a fallu dire aux gens, écoutez, maintenant, on passe sur une vraie société avec donc du payant, enfin avec un abonnement payant et des abonnements gratuits, enfin un abonnement gratuit et des abonnements payants, pardon, ça n'a pas été si simple que ça. Parce qu'on utilisait à l'époque le sign-in Twitter. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais juste besoin de cliquer sur le bouton. Nous, ça nous envoyait uniquement ton pseudo. Il n'y avait pas de mot de passe à rentrer, il n'y avait pas d'adresse email à rentrer. Ce qui fait que le jour où on a voulu se lancer, on avait zéro adresse email. Donc, même si on avait 20 000 utilisateurs, zéro adresse email derrière, du coup, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on avait fait, je me souviens, c'est qu'on avait mis une modale. Une modale, c'est ce qui apparaît sur votre écran quand vous arrivez sur un site, une sorte de pop-up, quoi, en disant n'hésitez pas à rentrer votre adresse email si jamais vous voulez plus d'infos, etc. Et on avait récupéré plusieurs centaines, voire milliers d'adresses email. Alors, pas 20 000, ça, c'est une certitude. Mais du coup, c'est comme si on était reparti un peu à zéro. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il y avait quand même cet engouement-là parce que effectivement, on était en 2014-2015. Effectivement, les réseaux sociaux, c'était tout à fait autre chose, notamment Twitter, je le dis deux fois. C'était innovant et l'outil permettait de faire une seule chose, mais bien. Et donc, du coup, les gens étaient enclins à partager leur adresse email, leurs données et voulaient en savoir plus. Mais voilà un peu ce qui s'est déroulé. C'était pas si simple que ça. Et c'est vrai qu'on pensait que ça allait être simple, parce que 20 000 utilisateurs, alors qu'en fait, c'était tout autre.
Ok, je vois. Ouais, effectivement, il y a le contexte, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération, et c'est intéressant.
C'est ça.
Mais vous aviez déployé de la pub, vous aviez fait des partenariats, qu'est-ce que vous avez mis en place ?
Non, rien de tout ça. Enfin, à l'époque, hein, attention, aujourd'hui, on pourrait parler de toute autre chose, mais à l'époque, déjà, en fait, il faut connaître tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a aussi cette chose-là, c'est que moi, j'avais moins de 20 ans. Tu vois, ça, c'est pas que c'est nouveau, parce que ça faisait quelques années que j'étais sur Internet et que je voyais un peu ce qui était mis en place. Mais comme tu l'as très bien dit, on n'avait pas de budget. On avait même mis en place des dons pour payer les serveurs, parce que du coup, c'est moi qui payais les noms de domaine, serveurs. Alors aujourd'hui, quand tu as une société qui fonctionne, c'est des frais et c'est OK, tu vois, 10 euros pour un nom de domaine, X centaines d'euros, voire milliers d'euros pour des serveurs, c'est OK. Mais à l'époque, c'était de l'argent que je devais sortir moi. Et donc, j'avais mis en place justement une sorte de don pour payer justement ces serveurs. Ça avait plutôt bien fonctionné. Enfin, en tout cas, ça couvrait les frais. Donc ça, c'était chouette. Mais non, pas de pub à proprement parler. Par contre, quelque chose qui est réel, c'est que entreprendre jeune en France, c'est extrêmement valorisé Et du coup, j'avais beaucoup d'articles presse. Tu vois, j'ai eu un article dans le magazine Elle, il y a Google qui est venu m'interviewer, il y a SFR qui est venu m'interviewer. Et tu sais, quand tu as 18 ans, 19 ans, c'est fou comme histoire. Bon, on m'a payé un aller-retour en train pour faire une photo à Paris pour le magazine Elle. Tu sais, j'étais comme un fou. Genre, mais quoi, c'est quoi cette histoire? Et il y a des gens de Paris qui viennent me prendre en photo chez moi. Donc, c'était SFR, c'est un magazine d'SFR. Enfin voilà, tu as tout plein de choses et ça faisait pas mal de visibilité. Et surtout, je pense que la clé de la, entre guillemets, mini réussite, en tout cas de cette quantité d'utilisateurs, cette clé, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille dans notre milieu, community manager, social media manager, communicant. Et CloakTweets à l'époque et Swello aujourd'hui a beaucoup fait parler de lui à ce moment-là et tout le monde s'en parlait. C'est un outil chouette pour faire gagner du temps, etc., etc. Et d'un coup, il y a une vague avec beaucoup de grands utilisateurs. Le premier étant le journal L'Équipe, la première semaine d'utilisation qui a dû trouver ça sur Twitter. C'est mon seul canal, en fait, entre guillemets, d'acquisition, de pub. Mais voilà, et en partenariat, non, il n'y en avait pas non plus. On était vraiment des nouveaux, des tout bébés sur Internet. On n'avait pas assez de connaissances pour tout ça. Mais je sais que des fois, on faisait des concours. Ça marchait bien à l'époque, des concours sur Twitter, et ça nous donnait un peu de visibilité. Il y a eu aussi le 12-12-2012 qui a donné un peu de visibilité, où tout le monde a programmé des tweets pour savoir si on allait être encore vivant après cette date. Donc ça, c'était rigolo. Ça avait donné pas mal de visibilité. Et tous les jours de l'an aussi, ça nous donnait pas mal de pub, puisque tout le monde voulait programmer son post, son tweet pour le jour de l'an, pour minuit pile. Donc ça aussi, c'était rigolo.
Ok, je vois, c'est intéressant. Et tu l'évoquais tout à l'heure, justement, en 2015, donc tu réussis à convaincre le meilleur ami de ton frère de te rejoindre dans l'aventure Swello, qui est devenu ton associé, qui est aujourd'hui encore ton associé, qui est CTO de Swello. Concrètement, quel a été l'impact de cette association et quel changement cette collaboration a opéré et a apporté tant sur le plan stratégique que sur la dynamique de l'entreprise?
Énorme impact. Pour dire la vérité, je pense que la société, enfin Swello ne serait pas là hein, sans Thibaut, sans cette association. Il a à la fois toutes les compétences techniques qu'il manquait, parce que même moi, si dans mes études, j'ai pu un peu apprendre à développer, et ce qui est très pratique aujourd'hui au quotidien, parce que ça me permet de discuter avec toutes les équipes et de comprendre toutes les problématiques. Et ça, c'est très pertinent. Donc, même si j'ai ces petites compétences, je pense que j'ai 1% et lui, il a 100%, tu vois, enfin, pour faire un comparatif. Donc, il est vraiment extrêmement fort. Et là je parle que de Thibaut, mais je parle pas du reste de l'équipe qui est aussi extrêmement forte aujourd'hui, mais à l'époque on était que deux. Donc déjà côté technique, ça a permis vraiment de refaire une refonte de Swello. Je me souviens, on souhaite mettre en ligne la nouvelle version de Swello un matin en décembre en 2015, et il est 6h30 du matin, on a fait une nuit blanche parce qu'on voulait absolument sortir cette nouvelle version. Et à, je sais pas, je crois que c'était 6h, je vais dire des bêtises sur l'heure, mais on va dire 6h03. À 6h03, je dis à Thibaut, écoute, n'hésite pas à tester le paiement. Et là, je reçois un mail, 118€. Je fais, ah ouais, t'as pris l'abonnement annuel, c'est fallait pas, tu vois, je ne te rembourserai jamais. C'est notre chiffre d'affaires. Mais en fait, c'était pas lui, c'était notre premier client qui, 3 minutes après, avait commencé à payer. Et c'était abonné, et là on était comme des fous de vivre cette expérience-là, en mode mais waouh, ok, donc il y a les 20 000 utilisateurs qui vont partir en payant tout de suite. Non, pas du tout. On a fait 700€ de chiffre d'affaires pendant très longtemps tous les mois, et du coup on ne pouvait pas se payer, etc. Mais c'est aussi ça les débuts. Mais donc voilà, autant au niveau technique, il est dingue, autant au niveau caractère, comme j'avais un tout petit peu dit tout à l'heure, on est tellement complémentaires et à la fois on s'entend tellement bien sur les valeurs, sur là on veut amener la boîte. Sur se dire les choses, savoir se dire les choses, c'est important. Et j'insiste sur le savoir se dire les choses, parce que des fois, on peut se dire les choses, mais on ne prend pas en compte l'autre en face et c'est compliqué. C'est vrai qu'avec Thibaut, ça a toujours été très fluide. Au début, on n'était pas amis, finalement. C'était vraiment le meilleur ami de mon grand frère, mais voilà, moi, je le croisais. Et ça, je pense que ça a aidé aussi au tout début. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir quand on est potes et qu'on commence un projet, hein, loin de là. Je dis juste vraiment que nous, de notre côté... C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vrai qu'il est si apaisant finalement en tant qu'associé, où on essaie de prendre toutes les problématiques, comme je le dis depuis le début, hein, avec le sourire et en essayant de trouver des solutions. Et OK, on se pose, on trouve des solutions, on avance et on va y arriver, tu vois. Et c'est vrai que moi qui suis très positif, qui ai 1000 idées à la minute, et lui qui est un peu plus calme, un peu plus posé, c'est vrai qu'on arrive très bien à s'apaiser l'un l'autre, à se compléter. En fait, c'est ça le mot. Et comme je le disais, il va avoir plutôt un caractère un peu plus discret. Moi, c'est pas que je vais avoir un caractère totalement opposé, mais c'est vrai que j'aime parler, j'aime expliquer ce qu'on fait chez Swelo, j'aime expliquer tout ce qu'on met en place là où... Enfin, ça, je pense que ça s'entend depuis le début. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est aussi important parce que faut pas l'oublier, on est des humains, on a des égos. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Et je pense qu'aussi une des clés de la réussite de ce binôme, c'est qu'on ne se marche jamais dessus. On a des rôles très définis, autant dans notre quotidien, dans le management, dans la prise de décision, dans les tâches, que dans justement notre caractère. Après ça s'est fait tout seul. Donc du coup, d'avoir ce côté très défini, on ne se marche pas sur les pieds et ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai qu'on pose souvent la question de comment trouver un associé, etc. Je n'ai pas la solution. Moi, j'ai eu énormément de chance, là, pour le coup, de faire cette rencontre, encore une fois, au bon moment, de recevoir ce mail au bon moment. Mais tout se joue à rien. Tu vois, Thibaut m'a dit qu'il a eu la proposition au Vietnam. Et en fait, ce qui a fait qu'il est resté aussi, c'est que j'ai réussi à le convaincre d'une part, mais c'est qu'on a rencontré le PDG Twitter France de l'époque qui nous a dit « Continuez, votre projet est très cool. » Et tu vois, c'est aussi des rencontres au bon moment qui ont fait que, mais on les a provoqués ces rencontres, hein. C'était pas des rencontres qui sont arrivées comme ça, mais ouais, Thibaut, qu'est-ce qu'il est fort.
Excellent. On voit justement cette complémentarité, mais aussi cette symbiose entre les deux, et ce respect mutuel qui fait que ça marche. Moi, je le vois, je le constate, et je suis incapable aussi de répondre à cette fameuse question, comment trouver un associé. Tu sais, à ce fameux truc où tu as les gens qui, des fois, en séminaire, se lèvent pour poser une question, qui, au final, n'ont pas de questions, mais disent bonjour. Ouais, alors, moi, je cherche un associé. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais ouais, effectivement, c'est capital quand tu trouves là où les bonnes personnes. Un autre sujet, c'est aujourd'hui, Swelo est plutôt bien positionné sur le marché de la planification, gestion, mais aussi analyse des réseaux sociaux. Quels ont été les différents éléments ou enjeux qui ont été mis en place pour faire la différence, notamment de par le fait qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'outils disponibles sur le marché? Comment est-ce que Swelo se démarque, que ce soit des outils en francophonie qui aujourd'hui font beaucoup parler d'eux, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer avec différentes personnes, ou même des outils un petit peu plus internationaux qui sont là depuis plusieurs années et qui ont, j'imagine, des millions et des millions d'utilisateurs cumulés. Comment est-ce que Swelo se démarque? Quelle est la proposition de valeur différenciante de Swelo? Et comment vous tirez profit des opportunités de marché pour pouvoir continuer l'expansion?
Je pense que toute cette histoire là, qu'on a déjà pu raconter depuis le début de l'épisode a encore un impact aujourd'hui sur notre manière d'être, sur cette différenciation. Tu vois, comme tu le disais et comme je le rappelais, je n'avais pas du tout de budget au début. Et en fait, quand tu te lances et que tu n'as pas de budget, il faut trouver d'autres solutions pour te faire connaître. Et c'est vrai qu'on a, et ça fait partie de nos valeurs et de nos caractères avec Thibaut, et maintenant aussi avec le reste de l'équipe, comme on n'avait pas ce budget, on a essayé de donner un maximum, tu vois, à notre communauté, donner de la valeur, apporter de la valeur pour justement se faire connaître et avoir un produit, encore une fois, simple, qui fait ce qu'on lui demande, mais qui le fait bien. Et donc, je pense que c'est déjà ces premiers arguments qui font la différence. Donc, notre manière de communiquer, notre manière d'être. Je peux prendre comme exemple le calendrier social media, tu vois, qui est le calendrier des marronniers qu'on fait avec le blog du modérateur depuis 6 ans maintenant ou 5 ans. Et donc, en fait, c'est tous les marronniers qu'on rappelle dans un calendrier. Et en fait, ça a été fait au tout début de Swelo, enfin en 2017, quand on a lancé la société. Et le blog du modérateur nous dit « Ok, c'est une trop bonne idée, on le fait ensemble, en partenariat. » Et donc, on ne paye pas à ce moment-là un article sponsorisé. C'est un partenariat, mais le blog du modérateur, c'est un média qui fait des centaines de milliers de visites tous les mois, voire des millions. C'est vraiment un gros média de notre milieu. Et là, tout de suite, déjà, ça nous apporte une visibilité énorme. Et donc, en face, on ne demande pas de mail, tu vois, quand on demande le télé, enfin quand tu peux télécharger le calendrier. Et donc, première année, on va faire 8000 téléchargements, puis 20000, 30000, 40000, 50000. Et donc, en fait, l'année dernière, c'était 70000 téléchargements du calendrier social media. Ça prend énormément de temps, mais tu vois, c'est tout ce mood, cette façon de penser. Alors, il y a d'autres formats où on va demander des emails, il y a d'autres formats où on ne le demande pas. Tu vois, il y a aussi nos livres blancs, on a notre podcast, notre blog, on a nos réseaux sociaux. Le but, c'est d'apporter de la valeur à notre communauté sans cesse. Et je pense que ça vient du début et de faire ça, entre guillemets, avec amour. Alors maintenant, c'est commun, tu sais, tous les sites sont faits avec amour, etc. Et j'y crois. Mais c'est vrai que ça a toujours été notre slogan, programmer vos tweets avec amour à l'époque. Et ça avait bien fait aussi la différence sur ce côté un peu décalé. C'est pas que c'est moins pro, mais c'est un peu décalé par rapport à ce que faisaient nos concurrents. Et ça nous a bien aidé. Donc, je pense qu'il y a ça déjà. Notre côté français, alors tu le disais, il y a d'autres acteurs francophones, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'acteurs partout ailleurs dans le monde. Et le fait qu'on soit français à Toulon, une équipe de 12-13 personnes avec un support français, chat, mail, téléphone, avec des humains derrière quoi, qu'on peut rencontrer, qu'on peut avoir au téléphone, ça fait mais toute la différence, vraiment toute la différence. On va avoir notre côté sécurité aussi qui fait la différence. Depuis qu'on travaille avec le gouvernement, on a encore monté d'un cran. On a nos serveurs qui sont basés en France, qui sont les serveurs les plus sécurisés, qui sont Secnum Cloud. On fait des audits de sécurité. On a un SOC, c'est des gens qui surveillent H24, 7 jours sur 7, que tout se passe bien sur Swelo. Et donc ça, quand tu vas voir n'importe quelle structure, que ce soit une banque, une assurance, une entreprise privée, start-up, TPE, PME, agence ou grand groupe ou du public, ça fait la différence. Puis quand tu dis que tu travailles avec le gouvernement, ça fait aussi la différence sur ce côté-là. Et puis, le cœur de notre outil, c'est surtout ça qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on a des fonctionnalités que nos concurrents n'ont pas. Déjà, on est très réactif, c'est ça qui est chouette, parce qu'on a beaucoup de nos concurrents qui sont des très grosses machines, et du coup, en termes de réactivité, ils sont réactifs quand tu prends du recul, mais nous, on va sortir une fonctionnalité en 2 jours, eux en 1 mois. Tu vois, et ça fait aussi, quand tu compares, cette vraie différence. Tu vois, on a sorti la programmation de story en moins de 24 heures, la programmation de PDF sur LinkedIn en 48 heures, et à côté, ça va être du 1 mois, etc. Nous, quand tu communiques dessus, tu es le premier à communiquer et à dire on est les premiers au monde ou un des premiers au monde à le proposer. Et c'est ça très fréquemment. Et ça, ça plaît beaucoup à notre audience et à notre communauté. Et je pense aussi que ce qui plaît, c'est qu'on a toujours et on continue de créer et de faire évoluer l'outil avec nos clients. Tu vois, nos clients peuvent voter pour les prochaines fonctionnalités. Et comment on développe nous nos fonctionnalités? C'est en fonction du nombre de votes qu'il y a pour telle ou telle fonctionnalité proposée. Donc ça plaît beaucoup. Et c'est ce lien qu'on a vraiment avec nos clients. C'est le côté on les chouchoute, on prend soin d'eux, on leur apporte de la valeur. On a un outil qui fonctionne avec des fonctionnalités inédites, avec un support français, de la sécurité. Ce côté vraiment valeur, moi j'en reparle, mais ça marche quoi. Ça fait la différence.
Ouais, c'est hyper intéressant, tu vois, parce que moi, je suis omniprésent sur les différents réseaux, que ce soit moi à titre personnel, entrepreneurs.com, le podcast Le Déclic. On est vraiment présents. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller nous suivre aussi sur les différents réseaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mettez les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Mais du coup, je ne saurais te dire si on utilise un outil de planification. Mais par contre, je trouve super intéressant notamment la planification des stories. Je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est cool. Et une question que j'ai à te poser, que j'avais toujours voulu poser à un outil de planification, c'est moi j'ai la croyance, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se posent la question, est-ce que je utiliserai un outil comme celui-ci, moi la peur que j'ai, c'est que par exemple le réseau social identifie que j'utilise un outil de planification et va me shadowban ou diminuer la visibilité potentielle que je vais avoir, que ce soit sur mes stories ou que ce soit mes publications et de par l'IP. Je te donne un exemple concret qui me fait penser ça par exemple et qui pense que je suis pas fou de penser ça, mais peut-être que tu vas casser ma croyance et je demande que ça. C'est que lorsque je suis à Dubaï, là où je vis, je publie une story. J'ai quelques milliers de personnes qui voient la story sur les premières heures ou à la journée, etc., selon les jours, selon les trucs. Je publie une story en la faisant à Paris. J'ai entre 2 fois et 3 fois plus de gens qui voient ma story. au même titre que sur TikTok. Alors moi, je n'ai pas TikTok, je n'ai jamais publié sur TikTok, mais je sais que c'est globalement comme ça que ça fonctionne parce qu'on a quand même des comptes actifs. Ça dépend de ton IP et ta carte SIM, il me semble. Et du coup, ça va déployer justement le contenu là où ils ont identifié que tu étais. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à cette question slash objection de est-ce que l'utilisation d'un outil de planification tel que Swello ou équivalent va poser problème concernant la diffusion de mon contenu ou peut-être shadowban mon compte et dans quelle mesure, si ce n'est pas le cas, Swello ne pose pas problème par rapport à ça?
Écoute, je te remercie de me poser cette question parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup. Et pour exemple, aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast, on a publié un post sur LinkedIn qui est vrai ou faux, programmer mes publications a un impact sur mes statistiques. Donc c'est très drôle que tu me poses cette question aujourd'hui parce que c'est vraiment le post sur lequel okay. qui a été publié là. Alors, pour moi, il y a deux sujets dans ce que tu viens de me dire. Il y a à la fois, tu m'as parlé de shadowban, ouais. et à la fois, tu m'as parlé de baisse d'impact, quoi, de baisse de statistiques. Je vais commencer par le côté shadowban parce que moi, shadowban, ça me fait tout de suite penser plutôt à des outils d'automatisation et pas à des outils de programmation. Donc, quelle est la différence ? Il faut savoir que nous, on travaille, on est partenaire avec les réseaux avec lesquels on travaille, donc Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. C'est-à-dire qu'on signe des contrats, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux quand il y a des problématiques. On a des contacts avec eux en France et souvent aux États-Unis. On a des accès privilégiés qu'on appelle des accès API. Ce sont des accès légaux, hein, c'est tout à fait légal. Et c'est eux qui nous disent si oui ou non, on peut faire telle ou telle chose. Donc, il y a quand même ça en termes de contexte à connaître, c'est qu'on ne demande jamais de mot de passe, on ne fait jamais d'actions qui ne sont pas autorisées par justement les contrats qu'on a signés, par les CGV, CGU qu'on a pu valider et signer. Et pour moi, la seule raison où tu peux te faire shadowban, c'est que tu fais une pratique qui n'est pas autorisée par le réseau social. Et à ce moment-là, oui, tu peux te faire bloquer ton compte, mais ça n'arrivera jamais avec Swello parce qu'on ne développe pas des fonctionnalités qui te permettent d'être shadowban puisqu'on respecte les règles. Pareil, on ne te demandera jamais de mot de passe, alors que, sans les citer, d'autres structures qui ne sont pas nos concurrents directs, hein, parce que tous nos concurrents respectent ce que j'ai déjà pu dire, mais d'autres structures te demandent ton mot de passe, et ça, c'est illégal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te demande le mot de passe, il faut partir. Parce que oui, là, ton compte peut être banni assez rapidement, généralement, et ce n'est pas autorisé. Ça, voilà. Pareil, il y a aussi des extensions, notamment pour LinkedIn, où tu peux te faire... bloqué, je ne vais pas dire bannir, parce que généralement, ils te bloquent quelques jours, enfin quelques heures, puis quelques jours, puis quelques semaines, puis ils te bloquent totalement. Mais ça, pareil, c'est des choses qui ne sont pas autorisées. Donc, il faut bien savoir où est-ce qu'on met les pieds. Est-ce que l'outil est un partenaire officiel? Est-ce qu'il respecte les règles, etc.? Et dans ce cas-là, tu peux ou pas te faire shadowban. En tout cas, sur Swello, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est une certitude. Et même pour donner une preuve, on a toujours respecté, comme je le disais, les règles. Et au départ, Instagram, il y a encore 3-4 ans, avait uniquement une liste infime de partenaires avec lesquels il travaillait. Et on ne faisait pas partie de ça. On ne faisait pas partie d'Insta. Et ce qui faisait, enfin, de cette liste-là d'Insta. Ce qui faisait que sur Swello, on ne pouvait pas proposer la programmation de post-Insta, alors que nos concurrents directs pouvaient le faire. Donc en termes, business, c'était l'enfer. Du jour au lendemain, tout a changé. Mais on n'a jamais fait le choix de dire « Bon, on demande le mot de passe et on propose cette option. » Parce qu'il y avait cette option qui était possible, sauf que c'était illégal et c'est illégal. Et nous, on travaillait, on avait au téléphone Insta qui nous disait « Ne faites pas ça, ça va arriver bientôt, ne faites pas ça. » Donc ça, c'est la première chose sur le côté shadowban. Maintenant, à la question « Est-ce que programmer mes publications a un impact sur mes statistiques ?» Est-ce que ça va t'étonner si je te dis que non ? Je ne pense pas. Mais ça, pareil, j'ai plusieurs éléments à donner. Déjà, un élément concret qui vient de Meta, mais c'est la même chose pour les autres réseaux. Donc, avec Swello, on a créé les Swello Days. C'est l'événement dédié aux social media. C'est une journée dédiée aux social media. La première journée, c'était l'année dernière, en 2022, à l'Opéra de Toulon. On était 350. Et parmi les speakers, il y avait TikTok, Meta, Universal, Combini et bien d'autres. Et Meta a eu cette question. Alors, je ne t'explique pas, moi, à côté, qui tendais le micro, où je me dis, OK, qu'est-ce que va répondre Meta ? Parce que nous, on sait qu'il n'y a pas de problématique. Mais si Meta nous dit, oui, ça a réduit le reach, alors là, tout ce qu'on dit depuis des années est détruit. Et heureusement, puisque c'est la réalité et c'est la vérité, Meta prend la parole et dit, pas du tout. Ça ne diminue pas le reach parce qu'en fait, on travaille main dans la main, on leur fournit une API, ils signent des contrats. Et donc, ça ne... ça ne réduit rien. Donc ça, c'est mon premier argument. C'est que Meta l'a dit, c'est enregistré, c'est publié, il n'y a aucun souci sur ça. Et c'est une preuve supplémentaire du réseau social en tant que tel. Deuxième chose, c'est justement, et je rappuie dessus, ces fameux contrats, cette fameuse API qui fait que on a un accès légal et c'est autorisé. Et il n'y a pas de raison concrète de raison concrète pour que les réseaux nous disent on vous donne accès légal, un accès légal, mais derrière on détruit le reach des posts via lesquels ça passe par l'API, quoi. Tu vois, donc ça n'a pas de sens concrètement. Donc ça, c'est le deuxième argument, c'est que on a un accès totalement OK pour publier les posts de nos clients. Et troisième argument, qui est plutôt l'argument du test. Il y en a des posts qui ont été programmés, qui ont été publiés. Il y en a qui ont fait des centaines de milliers de vues. Et on se rend compte que qu'on le publie en natif ou qu'on le publie via une plateforme tierce, ça a le même impact. Par contre, que les algos fassent varier le taux de vues, d'impression ou votre post, parce qu'il y a aussi ça, quel est votre post ? Est-ce que c'est du texte ? Est-ce que y a un carrousel ? Est-ce qu'il est pertinent ? Tu vois, il y a ça aussi. Ça peut faire varier les statistiques. Mais nous, en tout cas, après énormément de tests, et j'ai des preuves, j'ai des liens de posts qui ont été programmés, même des posts de notre équipe, qui ont été programmés sur Swelo, ou ne serait-ce que la page LinkedIn de Swelo, j'ai le post sous les yeux, je peux donner des statistiques. Nous, sur notre page LinkedIn, il y a un post sur deux qui a été programmé en 2023 via Swelo. On a gagné 9000 abonnés et ça a généré 1,7 million d'impressions. Et pour nous, c'est une preuve supplémentaire que ça n'a pas d'impact. Nos stats n'ont jamais été aussi hautes et continuent de croître chaque mois. Okay. Donc voilà quelques arguments.
Ouais, c'est intéressant et c'est intéressant pour moi, mais c'est intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent. Un autre point aussi que je trouve intéressant, moi j'adore ce type d'outil pour surtout la partie KPI, data. Parce que comme on dit, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Et effectivement, tu donnes 2-3 stats, 1,7 million d'impressions, etc. Demain, ça, ce sont des stats qui te sont directement partagées par la plateforme, en l'occurrence ici LinkedIn dans ton exemple, au même titre que tu peux aussi avoir tes stats sur n'importe quelle plateforme. Mais c'est vrai que des outils comme Swelo ou d'autres peuvent donner accès à des dashboards centralisés qui vont te donner davantage de stats, qui vont donner des stats par poste, qui vont, on va dire, simplifier ta capacité à pouvoir lire aisément tes stats et avoir de l'impact, ou en tout cas une capacité à interpréter celles-ci de façon à pouvoir les améliorer ou continuer. Mais ça, c'est le point. L'autre point, c'est que vous mettez en avant le côté aussi veille sur votre site en utilisant l'outil avec Sofer. Je crois que ça concerne surtout la partie entreprise. C'est quoi concrètement ce côté veille, curation de contenu ou les alertes qu'on peut mettre en place? Ça m'intrigue ce truc-là.
Alors, comme tu l'as dit, effectivement, cette partie statistique qui est très chouette, où tu peux, où en fait on récupère les statistiques de chaque réseau social, donc celles que tu vas voir quand tu te connectes sur tes réseaux, et on rajoute une couche par-dessus d'analyse de notre part avec des datas et des graphiques, etc., qui sont assez chouettes. Moi, je pense notamment au type de post. Tu vois, ça te dit quel est le type de post qui performe le plus sur ta communauté. Donc, tu es sur LinkedIn, tu as peut-être publié du texte, des médias, donc des photos, des vidéos, des carousels, des liens, et tu te rends compte que, sur ta période sélectionnée, tu as publié 2 carousels, mais c'est ce qui a généré 70% de ton engagement. Donc, tu vois, ça te permet de faire des choix stratégiques sur quelle est la typologie de post qui fonctionne, et derrière tu vas voir ton top flop 10 et tu regardes quelle est la thématique qui a le mieux fonctionné. Et donc tu vois, tous ces outils, ça te permet vraiment de performer encore plus et de faire des choix stratégiques et de les justifier auprès de ton équipe. Donc ça, c'est très très chouette, cette partie statistique. Et on a notamment fait un choix, on a pris une décision, c'est que le taux d'engagement qu'on affiche n'est pas le taux d'engagement qui est affiché sur le réseau social, c'est un taux d'engagement avec une formule maison pour que tu puisses comparer ton taux d'engagement Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. On utilise le même calcul, la même formule pour chaque réseau social. Et ça aussi, c'est très chouette. On l'a mis en place avec le gouvernement et au final, on l'a déployé pour tous nos clients. Mais on l'indique, on le dit directement et on dit pourquoi et on donne la formule. Comme ça, c'est très clair et tu peux le calculer toi-même. Bref, sur les statistiques, moi j'adore. En plus, tu peux recevoir tes petits rapports sur 12 mois, sur 6 mois, mois par mois, au jour. Enfin, tu fais comme tu le souhaites. On a également cette partie veille, curation de contenu, comme tu l'as dit, qui mélange à la fois le web et les réseaux réseaux sociaux. Donc le web, c'est vraiment tout Internet. Voilà, tu peux mettre des Google Alerts qui surveillent tout Internet et tu vas avoir Facebook et YouTube qui peuvent s'ajouter. Et en fait, toutes les 15 minutes, ça va te remonter du contenu en fonction de secteurs d'activité, de sources que tu as définies. Donc, je ne sais pas, nous, par exemple, on a trois typologies on appelle ça des thématiques. On a trois types de thématiques chez nous. On va avoir une thématique concurrence. On va analyser les blogs de nos concurrents, les réseaux sociaux de nos concurrents pour voir ce qui se publie, sur quoi ils travaillent actuellement. On va avoir une thématique plutôt suelo. Qu'est-ce qui se dit de nous sur le web? Qu'est-ce qui se dit de nous sur Facebook, sur YouTube? Et on va avoir une thématique plutôt général sur le marketing, donc par rapport à ce qui nous intéresse. Donc on va avoir le blog du modérateur, le blog Swello, siècle digital, tu vois, on va faire cette veille. Et donc toutes les 15 minutes, hop, ça remonte sur notre dashboard de veille et ça nous permet de rester à jour au quotidien. Donc voilà sur cette partie-là. Et il y a aussi une partie alerte où là, en fonction du paramétrage que tu vas faire, des horaires que tu veux, sur lesquels tu veux recevoir cette alerte, de ce que tu veux surveiller, à qui tu veux l'envoyer, les mots-clés que tu veux surveiller, etc. etc. Bah, ça va t'envoyer des rapports sous forme de newsletter dans ta boîte mail, donc à la fréquence que tu auras demandé, ou dès que possible, dès que tu reçois une info, je sais pas, dès qu'on parle de Swello sur Internet, je veux recevoir une alerte. Bon, bah, tu vois, ça, c'est possible. Et du coup, bah, ça peut répondre à certains besoins en fonction de la demande de nos clients.
Ok, très clair. Merci pour ces infos plus techniques à l'égard de l'usage de l'outil, en tout cas ses fonctionnalités. Lorsque Swello a fait évoluer son modèle, finalement, je ne sais plus exactement à quelle année, je crois que c'est quelque chose comme 2015 ou 2016, où vous êtes passé d'un modèle initial gratuit sur un modèle payant. Comment est-ce que vous avez préparé cette transition? Comment est-ce que vous avez géré la réaction peut-être des utilisateurs existants face à un tel changement? Parce que ça, c'est typique d'enjeux auxquels pourraient faire face, justement certains ou certaines qui nous écoutent, de façon à pouvoir justement donner un autre tournant à son business et passer d'un modèle économique difficilement viable à un modèle économique viable avec MRR, ARR et tout ce qui s'ensuit, notamment pour par exemple établir une valorisation, lever des fonds, avoir de la croissance. Et avancer.
Bah écoute, on l'a très mal préparé pour te répondre. En fait, on a tellement été focus sur l'outil et on était tellement content des nouveautés parce qu'en fait, on n'avait qu'une version gratuite et puis là arrive une version gratuite et deux versions payantes, je crois, et deux abonnements payants à l'époque qui sont encore le médium et le large d'aujourd'hui avec plus de fonctionnalités aujourd'hui, bien sûr. Et en fait, on était tellement contents d'avoir tout redéveloppé, d'avoir créé une version gratuite qui était encore plus performante que la version gratuite précédente, qu'on a oublié de prévenir nos clients, enfin nos clients, on n'avait pas de clients encore, mais de prévenir nos utilisateurs gratuits, enfin l'ensemble de nos utilisateurs du coup à l'époque. Et du coup, du jour au lendemain, ils sont arrivés et on leur a dit, si vous voulez faire ça, soit vous restez en gratuit mais c'est limité, mais c'est mieux qu'avant, soit il va falloir payer. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, j'ai même pas encore aujourd'hui la raison. On a très mal communiqué dessus, alors que c'est quand même notre métier de communiquer. Et on a reçu un mail qui ne nous a pas fait du bien. Parce que tu sais, tu passes donc cette fameuse soirée où on met en ligne à 6h du matin, tu vas dormir quelques heures, puis tu reviens l'après-midi et tout l'ordi. Et là, tu reçois un mail, je m'en souviens très bien, hein, c'est je vois que vous avez fait le choix de l'argent. Vous faites tout pour l'argent, ce sera sans moi. Etc. Alors, c'était un mail parmi tout plein de mails qui nous disaient c'est génial, mais tu sais, t'es fatigué, t'as travaillé dur pour cette nouvelle version qui en fait est encore meilleure que la précédente, et là tu te prends un mail qui te dit vous avez fait le choix de l'argent et tout, alors que c'est totalement à l'opposé de nous, parce que nous on est en mode ah bon, on peut gagner de l'argent avec notre travail. On était vraiment dans ce mood là, et ouais, tu prends personnellement quelque chose qui n'est pas en fait à prendre personnellement. Et ça, c'était le premier apprentissage. Justement, on avait notre mentor au téléphone à ce moment-là et elle nous disait, mais en fait, c'est pas vous. Enfin, vous avez fait des petites erreurs de communication, mais il ne faut pas le prendre personnellement. Et tu vois, toi, tu es fatigué, tu le prends personnellement. Donc, bon, bref, on ne l'a pas très bien fait. Du coup, on est revenu un peu en arrière et on s'est posé. On s'est dit, OK, non, en fait, il fallait qu'on communique. Et donc, on a refait une sorte de communication qui était bien plus claire. Bah, en fait, pas une sorte de communication, on a communiqué tout simplement. Et ça s'est super bien passé. Et les gens nous ont dit, mais on comprend. Et c'est OK. Et peut-être que moi, je vais rester sur le plan gratuit. Et puis, il y a un autre qui nous disait, moi, je vais partir sur le plan payant. Mais c'est OK, on vous comprend. Et je sais qu'on avait fait, je crois, un article de blog complet où on expliquait tout ça, le fait qu'on ait été, on a été maladroit, en fait, à ce moment-là. Mais c'est, ça fait partie aussi des erreurs, ça fait aussi partie de l'apprentissage et c'est cool, au final, d'être passé par là avec le recul. Et je voulais revenir aussi sur un point que tu disais, je crois, au tout début. On a tenté d'être vraiment parfait avant de lancer cette version-là et on a eu la chance, en fait, d'être hébergé chez mon ancien boss qui est Nicolas Chaunu de Tuto.com, puisque je travaillais chez Tuto.com en alternance pendant 2 ans. Et il nous a dit, écoutez, il y a de la place là, restez. Et en fait, je me souviens très bien de cette phrase où on était en train de développer une fonctionnalité et on voulait qu'elle soit parfaite et il nous a dit, arrêtez de vouloir ça, arrêtez de vouloir avoir un produit parfait, lancez-le comme ça. Et si vos utilisateurs vous disent, OK, on veut aller plus loin, à ce moment-là, vous commencerez à réfléchir à développer cette fonctionnalité si parfaite. Et pour dire la vérité, depuis 2015, la fonctionnalité n'a pas évolué. Donc pour te dire à quel point il avait raison, et pour te dire qu'aujourd'hui, moi, je suis quand même, je ne vais pas dire très perfectionniste, je suis perfectionniste, ça fait partie de mon caractère, mais qu'est-ce que j'ai lâché depuis cette chose-là ? Maintenant, je suis vraiment en mode, écoutez, on met en ligne, on valide, on voit si ça marche, on fait le truc parfait. Tu vois, on fait le truc qui est très cool, qui répond à 100% du besoin, mais je suis plutôt dans ce mood, on essaie déjà d'être au top, c'est non, là, on essaie de lancer quelque chose qui apporte de la valeur, parce qu'en fait, ça va te prendre vraiment très peu de temps. Tu sais, c'est ce qu'on dit, c'est le 80-20, c'est où tu as 80% de ta feature qui est développée en 20% de temps et les 20 derniers pourcents de ta feature, pour qu'elle soit parfaite, ça va te prendre 80% du temps. Et en fait, non, lançons la feature, on voit si ça fonctionne. En parallèle, on peut continuer à développer, à prendre les feedbacks des utilisateurs. T'sais, c'est aussi le schéma que tu as peut-être déjà vu avec... La voiture où en gros on te dit voilà, moi je vais te créer une voiture parfaite, attends 6 mois et je te la porte, elle sera parfaite. Et en fait, tu attends 6 mois et ça correspond pas du tout à la demande de ton client, enfin tu vois, à la demande initiale. Alors que si tu dis voilà, moi aujourd'hui je peux pas t'apporter de voiture, je peux t'apporter un skate qui va devenir une trottinette, qui va devenir un vélo et puis après qui va devenir ta voiture parfaite, mais à chaque fois tu itères et là à la fin, tu sais, le client il a sa voiture parfaite. Il faut plus être dans ce mood là. De se dire, voilà, je vais itérer petit à petit, je vais faire des erreurs, mais c'est là, ça existe, c'est concret. Et en fait, sans m'en rendre compte, ce premier MVP, parce qu'en fait, c'est de ça dont je parle depuis le début, Minimum Valuable Product, ce premier MVP, c'était ClockTweets. C'était un outil qui était moche, qui était marron. J'ai fait un design marron. Personne en France, dans le monde, a fait un design marron. Je vous encourage à mettre sur Google ClockTweets, vous allez pouvoir retrouver un screen pour voir à quoi ça ressemblait, c'était extrêmement moche. Mais pour autant, ça faisait très bien ce qu'on lui demandait. Ça permettait de programmer un tweet à une heure donnée. Et tu vois, en fait, sans m'en rendre compte, j'avais créé ce premier MVP. Et après, avec le temps, grâce aux conseils autour de nous, on a lancé cette première version. Et ça a fonctionné petit à petit. Mais c'est là où ça a fait la bascule. Mais tu vois, on n'a pas assez bien communiqué pour que tout le monde soit ultra satisfait de ce changement. Après, ça s'est estompé avec le temps et tout s'est très bien passé. Mais il y a eu ce petit moment. Et juste aussi pour mettre aussi pour montrer un peu la réalité. Aujourd'hui, on est rentable. On est rentable depuis 2-3 ans. Mais à l'époque, on faisait entre 0 et 700 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça ne suffisait pas du tout pour nous payer. Ça ne suffisait pas pour payer les charges. On avait mis 10 000 euros dans la boîte avec Thibaut, toutes nos économies. Et quand on a levé des fonds, on faisait 700 euros de chiffre d'affaires.
Ok, justement, je voulais en parler de cette levée de fonds. Donc, en 2017, il y a 6 ans, Swallow fait sa première levée de fonds. Comment est-ce que vous y êtes pris pour obtenir cette levée et qu'est-ce qui a changé dans votre écosystème? Mais surtout aussi, vous faites une levée de près de 500 000 euros sur base de quel valo, alors que finalement, vous faites, comme tu l'évoques ici, 700 euros de chiffre d'affaires par mois.
Écoute, donc on fait un accélérateur. À TVT, Toulon Var Technologies, accélérateur de quelques mois, donc entre fin 2015 et début 2016. C'est là donc on fait cette fameuse mise en ligne de nouvelles versions avec les abonnements. C'est là où vraiment on essaie de creuser pour un business model. Et en fait, sans le savoir, quand on pitch pendant tout le long de ces 4-5 mois d'accélération, on pitch face à des BA. On ne le sait pas, mais dans la salle, il y a des BA, il y a des business angels. Et puis, nous, on nous pose cette question, mais est-ce que vous allez rester sur Twitter tout le temps? Mais est-ce que vous allez faire une levée de fonds? Et nous, on est là, mais oui, on va rester uniquement sur Twitter, c'est ça qui nous différencie. Bon, quelques mois après, on était sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Puis, on nous dit, est-ce que vous allez lever des fonds? On dit, mais non, nous, on a 20 000 utilisateurs gratuits, on va les transformer, ça va nous suffire. et un an plus tard, on lève des fonds. Donc, comment te dire que déjà, on a changé d'avis très vite parce qu'en fait, tu te rends compte aussi de certaines choses. Tu as des a priori, tu as des certitudes qui se cassent et ça sert à ça en fait aussi l'accélérateur par rapport à des discussions que tu as avec tout plein de personnes. Et puis, tu as une réalité aussi du marché où en fait, c'est soit on reste tous les deux, on vivote et on n'arrive pas à concurrencer l'ensemble du marché. Soit on va tenter de lever des fonds, on va faire grossir notre équipe et on va essayer de croître très vite pour justement prendre notre place sur ce marché. Et puis, donc, on fait cette rencontre unilatérale, parce qu'on ne le sait pas, de Business Angels. Et un jour, on dit, au final, on est chaud pour tenter de lever des fonds. Et donc là, on va pitcher à VBA, VAR Business Angels. On fait donc notre pitch face à CBA. Et puis, ils sont unanimes. Ils nous disent, nous, on est partant pour faire une due diligence. Donc, pour regarder un peu votre business, voir comment vous en sortez, vous poser des questions, creuser. Et nous, on y allait initialement pour 300 000 euros. Et c'est eux qui nous ont dit non. 300 000 euros, ce n'est pas assez par rapport à votre business. Il va falloir que vous ayez 500 000 euros. Au final, on termine sur du 465 000 euros. Mais donc, il y a VBA, VAR Business Angels, qui met un peu, dont Guillaume Passaglia. Guillaume Passaglia, qui est le fondateur de VDM, Vie de Merde, qui vient de la Seyne-sur-Mer, qui est à côté de Toulon, et qui, lui, croit énormément en nous. Qui arrive à convaincre les Business Angels. Et puis après, il y a Créazur, le Crédit Agricole, qui arrive. Et puis après, il y a la région. On va pitcher à la région, Région Sud Investissement, qui met de l'argent chez Swello. Et puis après, il y a Olbia Investissement, qui investit aussi chez nous. Et donc, on arrive avec plus de 10 investisseurs, je crois, on était 14 investisseurs, qui rentrent chez Swello. Et donc, on lève ces 465 000 euros. En juin 2017, on a la chance d'avoir un article dans les Échos, c'est très 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 chouette. Et puis on fait une soirée pour annoncer ça et pour annoncer aussi notre changement de nom. Et donc voilà, il y a cette bascule-là où on passe de 3 à 6, où sur un compte à 21 ans et 25-26 pour mon associé, on a 500 000 euros. Et maintenant, va falloir gérer tout ça. Et va falloir faire en sorte d'exploser, puisque quand on fait une levée de fonds, on a aussi un contrat qu'on signe, un pacte d'associés avec une sortie à proposer dans les 5 ans, soit une autre levée de fonds, soit un rachat des parts de la part des associés, donc de Thibaut et moi, soit un rachat des parts d'autres investisseurs, soit on rentre en bourse, soit on s'arrête. Et donc, ces 5 ans, c'était il y a quelques mois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres investisseurs qui sont arrivés. Alors, un nouvel investisseur qui est arrivé. Des investisseurs qui étaient déjà avec nous, donc Olbia Invest, qui ont racheté des parts des investisseurs qui souhaitaient partir. Et nous, la société, nous, Swello, on a également racheté des parts pour les personnes et les investisseurs qui souhaitaient sortir. Et du coup, aujourd'hui, on est, je crois, 7 sans Thibaut et moi. Donc, on a divisé par 2 le nombre d'investisseurs chez nous. Mais on est reparti, non pas pour... ce n'est pas une levée de fonds, c'est vraiment un changement de d'investisseurs. On est reparti pour croître encore et on a de la chance d'être avec eux. On a de la chance d'être soutenus, d'être écoutés dans les bons comme dans les moins bons moments. J'entends beaucoup de personnes qui ont des invests qui nous disent « ça ne se passe pas très bien ». Nous, on a cette chance-là où on est énormément accompagnés, soutenus depuis le début. Encore aujourd'hui et on a énormément de chance sur ça.
Ouais, non, effectivement, je te rejoins et d'autant plus que voilà, ça fait 6 ans maintenant, donc vous avez ce recul aussi. Sur quelle base de valo vous avez fait cette levée de fonds ?
Écoute, je pense ne pas avoir la réponse. C'est eux qui nous ont dit on vous donne tant pour tant et pour te dire, on n'avait pas trop le choix parce qu'on faisait 700 euros de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, tu te bases sur très peu de choses. On avait 20 000 utilisateurs, les fameux 20 000. On était soutenu par le Twitter France de l'époque. On était soutenu par Guillaume Passaglia, qui était plutôt côté investisseur. On était soutenu par Nicolas Chonu, qui était mon ancien boss. On arrive avec un pitch deck qui est assez carré, assez direct. On montre qu'on sait de quoi on parle et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller. Mais pour autant, si on parle de chiffres, on fait 0 euros de chiffre d'affaires, enfin 700 euros, mais ça équivaut à 0 quoi. Et donc c'est eux qui nous disent, on vous propose tant pour tant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Alors ça prend 7 mois, enfin je sais plus combien on a mis plusieurs mois, mais dans l'idée, on n'a pas eu trop notre mot à dire et à la fois, nous on trouvait ça juste, c'était ok, c'était ok. Parce qu'il fallait croire en nous quand même, mine de rien.
Ouais, c'était un risque. Et justement, donc, tu peux communiquer sur ce temps pour temps ?
Malheureusement, non. C'est, okay. C'est une des datas qu'on ne peut pas donner, mais on reste bien sûr majoritaire avec mon associé, ça, il n'y a pas de doute. Mais encore une fois, je pense que c'était un bon deal. Et des fois, quand je regarde, tu sais qui veut être mon associé à la télé, ouais. Je me dis, waouh, des fois, c'est... pour moi, ce n'est pas... y a des choses qui ne sont pas justes. En tout cas, ou alors le monde de la levée de fonds a changé. Mais je trouve des chiffres certaines fois ahurissants, même si j'aime beaucoup cette émission et je trouve que c'est bien que ce soit montré au grand public. Mais je pense qu'on a fait un deal juste. Vraiment, c'est le bon mot.
Ok, ok. Et tu parlais du fait, je demande des chiffres, hein, je creuse un peu, c'est toujours intéressant de voir un petit peu la chose, que vous étiez à 700 euros de chiffre d'affaires par mois à l'époque. Aujourd'hui, qu'on se rende compte, le chiffre dont on a parlé avant, c'est 120 000 utilisateurs, par exemple, ce qui est c'est quand même colossal. J'imagine que ce n'est pas forcément 120 000 utilisateurs mensuels actifs. Si c'est le cas, contredis-moi si je me trompe. Mais aujourd'hui, c'est combien de chiffres d'affaires par mois qu'on se rende compte et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un business où tu as vraiment de la visibilité sur ton MRR, ARR, ton churn, ta croissance, donc tu as une prédictibilité des choses qui est plutôt cool, sachant que voilà, les réseaux sociaux, je pense qu'à l'unanimité, que ce soit toi, moi et toutes celles et ceux qui nous écoutent, on peut quand même dire que bah, ça évolue plutôt bien et ça va plutôt aller en croissance qu'en régression. Est-ce que ce sont des chiffres sur lesquels vous communiquez ou pas?
Alors, c'est des chiffres sur lesquels on ne communique pas forcément. Maintenant, je ne vais pas te laisser sans chiffres. Je vais pouvoir te donner une sorte de contexte, des éléments. Alors, pour reprendre les 120 000 utilisateurs, chez nous, donc, on a des abonnements payants, bien sûr, et on a un abonnement gratuit. On a 120 000 utilisateurs, mais on a plusieurs milliers de clients. Tu vois, c'est pas pareil. Maintenant, on est rentable depuis pratiquement 3 ans, je crois. Et d'ailleurs, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est ? Enfin, t'es soulagé hein, quand t'es rentable.
Ouais.
Parce que bah, pendant plusieurs années, c'était à des moments où tu te dis bon, il va falloir vraiment tout donner pour croître, pour être encore là dans 6 mois, 1 an. Et en fait, voilà, la croissance se fait petit à petit. Nous, ça s'est fait bizarrement un peu avant le Covid et pendant le Covid. On a eu cette chance-là et je la mesure, cette chance, parce que c'est vrai que. Le Covid, ça n'a pas été facile pour toutes les entreprises, sans parler du côté personnel, santé, etc. Aujourd'hui, effectivement, on ne communique pas sur notre MRR, sur notre ARR. Ce sont des chiffres qui sont très stratégiques. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que on est à l'équilibre. C'est qu'on a un chiffre d'affaires à 7 chiffres, si je ne me trompe pas, à 7 chiffres. Et qu'on est très chanceux de pouvoir vivre de notre travail, de ce qu'on fait, de ce qu'on a créé et de pouvoir se dire qu'on est 12 et que bah, voilà, c'est une aventure à 12-13. Alors je dis 12-13 parce qu'on est en train de recruter et qu'on a encore 4-5 postes ouverts en CDI. Mais voilà, on a beaucoup de chance. Mais c'est ce que je peux te dire, c'est qu'on a dépassé justement ces 5 chiffres il y a quelques années, ces 7 chiffres pardon, il y a quelques années et qu'on est très fiers.
Bah écoute, félicitations, on se réjouit pour vous, c'est top. Et effectivement, sur ce type de modèle, c'est capital le moment où tu passes le seuil de rentabilité. Un autre point, un enjeu important pour les quelques minutes qui nous restent, c'est que vous avez aussi gagné un appel d'offres ministériel. Ça a dû être un énorme pas dans le parcours de Suelo, enfin, en tout cas j'imagine. Comment cette opportunité s'est présentée et qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous ?
T'as bien raison de le dire, c'est un énorme pas, c'est quelle histoire. C'est à tous les niveaux, c'est fou. Une structure toulonnaise, à l'époque on était 8 je crois, parce que c'était il y a 4 ans, 3-4 ans, et on remporte un appel d'offres interministériel pour équiper l'ensemble des ministères, ambassades, académies, services déconcentrés. Franchement, on trouve cet appel d'offres, parce que c'est un appel d'offres public. On trouve cet appel d'offres il y a quelques années et puis c'est un de mes bizdevs qui trouve ça, Yvonique, et qui me dit, qui m'en parle et je le lis. J'étais en vacances, j'avais pas d'ordi, c'était une des seules fois de ma vie où j'avais pas d'ordi à ce moment-là. Et je le lis et je me dis, mais on peut clairement y répondre, quoi. Et tu vois le nombre d'utilisateurs, tu vois le nombre de profils sociaux, tu vois aussi les noms, quoi. Enfin, tu vois tous les ministères. Et tu te dis, on va tout donner, on va faire le meilleur dossier possible. On n'a jamais répondu à un appel d'offres, mais on va tout donner. On se fait accompagner par Silvio Brémondi qui nous aide, et son métier, lui, c'est de faire des appels d'offres. Alors, surtout sur la partie juridique, moins sur la partie technique, parce que bah, technique, c'est notre métier, c'est à nous de la faire. mais on est accompagné et puis on parle, on échange avec tout plein de personnes qui ont déjà répondu à des appels d'offres et on essaie de faire le meilleur dossier possible, de mettre notre conclu également en intro parce qu'ils ont plein de dossiers à lire et il faut leur faire gagner du temps. Notre dossier fait 40 pages, enfin il faisait 40 pages. On prend un tableau, on prend tous leurs critères et on met des couleurs. Vert, on l'a, orange, il faut le développer avec vous, rouge, on l'a pas. C'est très clair, c'est limpide. Tu vois, on leur a pris leur CCTP, donc leur cahier des charges techniques, et on leur a dit voilà tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait faire. Et on a eu une lettre de notre banque, de nos investisseurs, de notre comptable, de nos avocats. Tout le monde qui disait ils ont les reins solides pour le faire. C'est parce qu'en fait, petite parenthèse, comme on fait une levée de fonds, nos bilans ne sont pas très jolis les premières années. Maintenant, c'est OK, c'est cool, ils sont beaux. Mais les premières années, bah, ce n'est pas très, très beau. Donc, il faut le justifier, ça. Il faut leur dire qu'en fait, la société, elle va bien, mais que c'est juste des histoires financières, de bilan, quoi. Et donc, on donne tout. Je me souviens, on a un mois pour répondre. On passe la première phase juridique, en fait, qui dit que OK, on vous fait confiance. Je sais qu'il y a d'autres concurrents, puisqu'en fait, quand tu poses une question dans un appel d'offres, ils sont obligés de répondre à l'ensemble des personnes qui ont répondu à l'appel d'offres. Donc, quand tu reçois des réponses, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions. Donc, je sais qu'on n'est pas seul. Et puis après, tout se joue sur le côté technique et sur notre dossier. Et c'est le 14 février, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'habite à Toulon, mais à l'époque j'habitais aussi à Paris, je faisais des alternances lundi, mardi, mercredi à Toulon, les restes de la semaine à Paris, et je suis dans le RERA sur mon petit siège en moquette et je reçois un mail, je regarde mon petit mail 14 février et je vois réponse à l'appel d'offres. Faut se dire encore une fois que là c'est quand même quelque chose d'énorme, hein. Même en termes de chiffre d'affaires, c'était comme si on faisait une levée par an, quoi, dans l'idée. Ça n'avait pas été la réalité, parce que tu vas voir qu'après on a appris quelque chose, mais dans l'idée, c'était la projection qu'on faisait. Et donc là, je me dis, OK, je clique sur le lien et je me dis, j'ai attendu pendant un mois. Est-ce que j'ai envie de le découvrir sur mon petit siège de RER avec des gens que je ne connais pas, ou tu sais, je peux être trop content ou très triste, ou est-ce que j'ai envie d'attendre de rentrer chez moi et d'appeler mon associé et de le faire en visio, tu vois. Et donc, je rentre, je cours pendant 15 minutes, tac, je rentre, on regarde, on partage d'écran. Et on clique sur le lien qui nous dit, recliquez sur un autre lien pour avoir la réponse. Et là, c'est marqué, vous êtes titulaire de l'appel d'offres interministériel. Et là, on est comme des fous, quoi. C'est un mariage. T'appelles ta copine, t'appelles tes parents, t'appelles ton équipe, tes investisseurs, et tu dis, on l'a remporté, quoi. Pendant 4 ans, on est titulaire de ce marché-là, et commence la visite au SIG, Service d'information du gouvernement, commence le pitch devant tous les ministères. Puis après, je fais la visite chez chaque ministère. Donc, tu visites tous les ministères en termes d'expérience, c'est dingue. Et après, le Covid arrive. Voilà. Le Covid arrive à cette période même, et on continue le déploiement, mais en visio. Et ça se passe super bien. Et puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 ministères en toutes les ambassades du monde, toutes les académies. Et là, juste la petite nuance que je voulais apporter, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'était un contrat cadre et qu'en fait, c'est à nous d'aller convaincre les entités de venir chez nous. Ce n'est pas les entités qui vont toutes venir chez nous de manière obligatoire. Et c'est vrai que c'est ça qui fait varier du coup le CA final. C'est un chiffre d'affaires qui est très chouette. On est ravis de travailler avec eux. Déjà au niveau expérience, ça nous a fait monter notre niveau de sécurité, notre niveau de maturité de manière générale. Et surtout, ça nous donne une image folle, notamment pour tout ce qui est public. Mais c'est vrai que c'était un contrat cadre et ça, on ne l'avait pas comme info. Mais ce n'est pas grave. Franchement, c'est tellement chouette de travailler avec eux. Et du coup, on a eu la chance d'avoir un article encore une fois dans les Échos. C'est le même journaliste qui avait fait la levée de fonds qui a fait cet article-là, qui indique qu'on remporte ce marché interministériel. Et quel plaisir de travailler avec eux. Et la petite parenthèse, je mets totalement la politique de côté parce qu'on ne travaille pas du tout avec la partie politique, mais on ne se rend pas compte, je pense, en tant que citoyen, à quel point les communicants d'entités publiques se donnent à 10 000% pour nous, citoyens, et pour nous informer. Moi, j'ai vécu le Covid avec eux. Je les ai vus travailler très tard, H24, enfin j'exagère, parce que bon, il y a quand même la loi à respecter, mais je veux dire, se donner à fond pour nous citoyens, et c'est vrai que je les remercie quand je les vois, parce que on fait souvent l'amalgame entre la politique et les personnes qui sont derrière et qui travaillent pour le bien commun, tu vois, pour les citoyens, pour nous informer. Et ouais, on est ravis de travailler avec le gouvernement français et avec ses communicants qui se donnent à fond.
Complètement. Merci pour ce feedback. J'ai deux dernières questions à te poser. La première, c'est vous avez fait face à une belle croissance aujourd'hui. Vous êtes 12-13, vous avez également d'autres postes à pourvoir. Et en même temps, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est relativement important pour vous. En tout cas, on le voit dans les échanges, les discussions, dans les communications, etc. Puis aussi, c'est de la cohérence, une question de cohérence, ne serait-ce que lorsqu'on communique sur les réseaux et autres. Et en même temps, vous faites face à nombreux enjeux de changement, que ce soit la croissance de l'entreprise, mais aussi les changements et l'évolution constante et permanente des réseaux sociaux. Du coup, toujours dans cette obligation finalement de s'adapter, de se remettre en question, de développer de nouvelles features, de développer de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles possibilités. Comment vous trouvez la balance et l'équilibre entre réussir à consolider la culture, recruter des talents et faire en sorte d'appuyer la croissance de l'entreprise tout en évoluant et en vous adaptant constamment aux changements auxquels vous faites face avec l'évolution de ce marché sur lequel vous êtes?
Je pense que la réponse est simple, c'est l'équipe, c'est nous, c'est tous ensemble. C'est qu'en fait, cette culture d'entreprise, on l'a créée avec Thibaut, puis après, il y a Kevin qui est arrivé, Kevin qui est notre premier employé, qui est toujours là chez nous depuis 7 ans maintenant. Et je pense que en fait, voilà, il y a Thibaut, il y a Kevin, puis après, il y a Gauthier qui est arrivé, puis telle autre personne. Et en fait, on donne ces valeurs, on donne cette culture d'entreprise à chacun, et toutes ces personnes donnent également et partage également cette culture d'entreprise aux nouvelles personnes qui arrivent. Et tu vois, c'est pas ricoché, tac, 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 tac. Tout le monde a cette culture d'entreprise et ça devient naturel. Et tu vois, on met en place des choses qui sont très chouettes chez nous, la semaine de 4 jours et demi, la mutuelle prise à 100%, la prévoyance prise à 100%, les tickets resto, les transports à 100%, le compte Spotify, le congé menstruel. Là, on est en train de réfléchir pour ajouter une semaine de jours de congé, le télétravail, tu vois. Et tout ne s'est pas fait en un jour, on n'est pas parfait. On fait de notre mieux, ça c'est une certitude. On a mis des choses au départ qui étaient simples à mettre en place, qui ne demandaient pas de budget. Aujourd'hui, tu en vas même jusqu'à l'accompagnement au niveau de la santé mentale avec une coach qui peut faire 6 sessions par personne et on prend en charge ces 6 sessions. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on peut se le permettre. Mais tout a évolué au fil de l'eau et la clé de tout ça, le centre de tout ça, c'est l'équipe. C'est la confiance qu'on a les uns envers les autres. C'est le fait qu'on ait tous les mêmes valeurs et qu'on aille tous dans la même direction. Et c'est la confiance aussi qu'ils ont envers nous en tant que dirigeants. Mais ça, c'est très important pour moi. Avec Thibaut, on n'a pas fait une boîte pour ne pas voir les gens. Le côté humain, c'est top 1. Tu vois, c'est vraiment le top 1. Et pour répondre à l'autre partie de ta question, c'est toujours la même réponse, c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble dans la même direction pour développer ces fonctionnalités, pour évoluer avec notre temps. Là, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, mais également pour écouter notre communauté, parce qu'on travaille aussi avec nos clients, comme je le disais tout à l'heure. On fait des points roadmap tous les trimestres où on prend en compte justement ces nouveautés, c'est-à-dire le feeling qu'on va avoir avec le marché, avec ce qu'on voit chez nos concurrents, ce qu'on voit sur l'AI par exemple actuellement, et bien d'autres sujets, hein. Mais également ce que nous demandent nos clients, donc la réalité terrain. On a toujours développé les fonctionnalités avec nos clients et toute notre équipe, et c'est pour ça que je ramène à l'équipe, toute notre équipe est habituée à ça, à être à l'écoute de nos clients, que ce soit les commerciaux, que ce soit le support, que ce soit la communication, le marketing, que ce soit sur des salons, que ce soit au téléphone, par mail, on les chouchoute, on les écoute, on en parle tous ensemble, on essaie de prendre une direction commune, on crée cette fameuse roadmap et pareil, ça fait toujours partie de nos valeurs, mais on co-construit tout ça tous ensemble.
Merci Jonathan pour ces éléments. J'ai une toute dernière question à te poser. Avant ça, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode encore une fois, eh bien, à nous le faire savoir en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast préférée sur laquelle vous nous écoutez. Également, vous allez pouvoir interagir sur la publication LinkedIn que l'on a publiée avec le parcours de Jonathan pour la mise en avant justement de cet épisode. Et puis, on mettra en description ton LinkedIn ainsi que le site internet de Swello pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et en savoir plus sur toi ainsi que ce que vous avez développé. Dernière question que je pose à chaque invité que j'ai sur le podcast Le Déclic. Tout simplement, est-ce que tu peux nous partager un déclic, un élément qui dans ta vie, dans ta carrière, sur les X dernières années, a été littéralement, a créé une transformation limite identitaire chez toi? Ça peut être une situation, une frustration, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une simple phrase, peu importe, mais quelque chose qui t'a marqué, dont tu n'as pas encore parlé dans cet épisode et que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. La parole est à toi pour le mot de la fin.
Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour cet épisode, pour l'invitation et toutes nos discussions. Question pas facile, je ne sais pas si c'est identitaire, mais en tout cas, ça a changé ma vision de communiquer. Ce que je vais vous partager, c'est un TEDx de Simon Sinek qui s'appelle le Golden Circle et qui explique la différence entre la manière de communiquer d'Apple et de ses concurrents. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de mettre en place chez Swelo, c'est le why au centre, le pourquoi on fait tout ça, quelle est la raison, quelle est la mission de tout ça. Et c'est vrai que j'ai vu cette vidéo pendant un cours quand j'étais en DUT MMI. Et depuis j'en parle, je la recommande et elle dure 15 minutes mais ça peut vraiment, et ça a vraiment changé ma manière de communiquer et de voir la communication et de me dire ouais en fait il faut que ça ait un sens tout ça, tu vois, il faut que ça ait un sens. Donc voilà ce que je peux vous partager, ce petit TEDx très intéressant.
Merci Jonathan.
Merci beaucoup à toi Alec.